Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 37e de la saison. Bonjour Michel Santo.
Bonjour Jean-Claude Julès.
Bonjour Jacques Proulx.
Bonjour.
Alors je vous présente en deux mots très succinctement, parce qu'on va revenir beaucoup plus en détail tout à l'heure dans une troisième partie, sur la raison de votre présence à ce micro aujourd'hui. Vous êtes un Narbonnais d'origine bretonne, je crois, mais Narbonnais depuis pas mal de temps. Et alors surtout, vous avez annoncé, décidé, de vous présenter à la candidature de la candidature de la présidence de la République, ce qui, excusez-nous, n'est pas banal, et j'imagine que vous mesurez l'ampleur de la démarche. Ça nous intéresse de savoir comment, pourquoi vous vous attaquez à ce monument, si je puis dire.
C'est une première historique dans notre petite cité, Jean-Claude.
Oui, ah, on a eu quand même Monsieur Chivardi, mais
oui, c'est pas Narbonnais, c'était, bon, c'était encore, oui, c'était encore pire, c'était pour c'est le village de Mayac, oui.
C'est un début.
Mayac, d'ailleurs, était entré dans l'histoire grâce au guignol de l'info.
Voilà, absolument.
J'espère que notre invité n'aura pas ce destin.
Ah, qui sait, et pourquoi.
On ne sait jamais, oui.
Ça l'a rendu sympathique.
Oui, encore qui que le guignol n'existe plus, c'est
qui
vrai.
Qui sait, et pourquoi pas. Voilà. Alors, le sommaire de cette 37e, Michel, nous commencerons par une question que tu poses concernant Alain Perea,
oui.
Qui, lui, alors, est maire de Wilden, c'est clair, c'est net. Il est également directeur du PNR, le Parc Naturel Régional, mais il semble...
Et il est aussi vice-président du Grand Narbonne, de l'agglomération.
De l'agglomération, effectivement. Et il semble, eh bien, se placer pour une future
oui.
carrière éventuelle.
Oui,
pourquoi
oui.
pas, ce qui, comme il est jeune, c'est tout à fait envisageable. Dans une deuxième partie, eh bien, nous reviendrons sur l'actualité météorologique avec la flotte qu'ont les Nordistes, pas nous, ça va, on s'en tire relativement bien, et les conséquences politiques, politiciennes de ces averses. Dans une deuxième partie, eh bien, nous verrons, nous parlerons du budget de la région.
Oui.
Budget, enfin, tu y vois une surprise, paraît-il. Eh bien, tu nous expliqueras quelle est cette surprise. Et puis, nous parlerons de ce que tu appelles un début d'aménagement du centre-ville pour Narbonne, Narbonneville.
Oui.
Nous dirons quand même. On ne peut pas y échapper un petit mot sur le Racing, ça se poursuit, puis sur l'actualité amusante du moment, les gens du voyage à Gruissan, enfin voilà, nos bons sujets habituels de
oui.
Radio Barque.
Allez.
Alors on commence par Alain Perea et c'est apparemment, tu vois, des ambitions politiques qui se révèlent.
Oui, c'est curieux parce que je pressentais ce genre d'initiative. Figure-toi, Jean-Claude et chers auditeurs, que vendredi dernier, c'est toute la journée, pendant que la CGT mettait le pays sous tension, le matin même, Emmanuel Macron, notre jeune et ambitieux ministre de l'économie, participait, lui, à la grande motte, au pépère congrès de l'Association des petites villes de France.
Voilà. Et monsieur
Perea. Invité par son président, député maire d'Annonay, Olivier Dussault, qui est un fervent soutien de monsieur Emmanuel Macron. Et, avant d'en venir, en fait, à Alain Perea, la presse régionale faisait observer que l'après-midi, ce même Macron tirait des filets. Hein, et pêcher l'anguille sur les temps de l'or.
Ah, il y avait anguille sous roche,
et,
là.
Du coup, effectivement, il a aussi tiré quelques poissons dans les eaux de la classe politique régionale, au passage. Une belle image biblique, d'ailleurs, hein, voilà, tant le jeune et entreprenant ministre semble marcher sur l'eau, si on peut dire.
Oui, mais la pêche à l'anguille, c'est marrant quand même, parce que c'est une stratégie d'anguille.
Et, et parmi ces prises politiques, quand même, hein, celle d'Alain Perea.
Oui.
Celle d'Alain Perea, qui est, comme on l'a dit d'entrée de jeu, dans l'annonce de ses chroniques, maire de Villedaigne et vice-président du Grand Narbonne. Alors, évidemment, Alain Perea ne se trouvait pas là, par hasard, quoi, pour inventer les petits pêcheurs de l'étang de Bâge et de Leucate, quoi.
Pour toi, c'est un futur candidat à la députation macronienne.
Ah, oui, en politique, tout fait sens, quoi. Tout fait sens, rien n'est neutre, pardon, et à l'évidence, Alain Perea a décidé d'ouvrir une ligne, passez-moi la métaphore, inattendue, en tout cas pour certains, dans le microcosme audois et narbonnais. Et son message, de mon point de vue, est parfaitement limpide. si je puis dire, malgré les eaux en ce moment un peu
comme
mauvaises, disait-on.
Comme l'eau de l'étang de Thau.
Ouais, c'est ça. Les législatives suivent les présidentielles, comme les électeurs suivent le raisonnement. Et Macron lui-même s'inscrivant dans une stratégie présidentielle dont on sait très bien que dans notre système de la Ve République, c'est le président qui fait les majorités futures. Quoi.
Bien sûr.
Et donc l'Assemblée future. Ben forcément, dans l'impérial, cette trajectoire vise, c'est mon point de vue, et je le dis de manière claire, vise la députation et donc le mandat de Mme Marie-Hélène Fabre, à l'actuelle députée du Parti Socialiste, parti auquel appartient toujours, jusqu'à quand je n'en sais rien,
Monsieur Perea.
Voilà. Alors pour la petite histoire, quand même, il faut rappeler que quand Mme Fabre était l'adjointe de Jacques Bascou à la mairie de Narbonne, elle avait en charge l'administration municipal. Et le directeur de cabinet qui faisait aussi fonction de directeur général à l'époque était Monsieur Alain Perea.
Oui, au début,
Alors, la rumeur laisse entendre, mais pas que la rumeur, bon, selon mes informations qui sont quand même de bonnes sources, on ne peut pas dire que ce binôme-là, pendant cette période, ait été particulièrement, comment dirais-je,
productif
et surtout établi sur un mode
et harmonieux.
Apaisé, quoi.
Et harmonieux. Parce
que, tout simplement, quand on a une adjointe qui n'a pas de travail autre que celui d'assistante parlementaire de M. Courteau, qui est donc à temps plein dans une municipalité, qui est en charge de l'administration générale, elle est quasiment la directrice générale des services, ce qui est la pire des situations que l'on puisse imaginer pour un directeur.
Voilà.
Bon. Donc, indépendamment des comptes, je dirais, de la stratégie de M. Perea, il y a quand même un arrière-fond, à la fois personnel.
Enfin, ça, c'est toi qui le vois comme ça.
Et politique, car je te rappelle aussi, je raconte du temps que M. Perea a fait campagne pour Didier Codroniou aux dernières législatives contre la même Mme Fabre.
Oui, voilà.
Voilà, donc, paysage tracé.
Voilà, ce jeune socialiste dévoile petit à petit ses ambitions. Donné sa jeunesse, ça n'a rien d'extraordinaire ni de surprenant.
Exactement, surtout dans un monde politique régional et narbonnais un petit peu fermé, où les barons ont tendance effectivement à tenir la porte fermée aux jeunes pousses.
Bon.
Quoi.
À propos de région, alors le budget, le BP, le budget primitif, t'a surpris.
Jean-Claude.
Alors expliquons, parce que c'est toujours très technique ces budgets.
J'avais donné rendez-vous à mes auditeurs, comme sur mon blog d'ailleurs, au vote du budget primitif de la grande région. Pour enfin avoir les chiffres clairs et nets sur la table, si je puis dire. Alors on les a eus, effectivement. Ce que j'avais prédit, c'est confirmé, à savoir que le budget de transition, parce que ça ne peut être qu'un budget de transition, quoi,
c'est la fusion,
c'est ni plus ni moins que l'agrégation des deux budgets des deux anciennes régions, à quelques 80 millions d'euros près. Parce que, alors, ce que les auditeurs, et pour qu'on soit bien clair sur le sujet, sachent, c'est que, et pour expliquer ce que je viens de dire à l'instant, sur le budget affiché de 2,8 milliards et quelques millions d'euros, comparé en fait aux 2,3 milliards d'euros qui seraient les budgets agrégés des deux anciennes régions, la différence de 500 millions d'euros, pratiquement à 80 millions d'euros près, ce que je viens de dire précédemment, ce sont des fonds européens que la région doit gérer, et donc qu'elle a reçu de fait des fonds européens dans ses caisses, en recettes et en dépenses. Donc à structure de dépenses égales, le budget n'a augmenté que de 80 millions d'euros. Alors voilà pour ce que j'avais dit, et qui confirme effectivement la réalité de ce que je disais, alors que bon, on annonçait par exemple, Jean-Claude, je te rappelle, un plan Blanchard à 600 millions d'euros. Eh bien là, figure-toi qu'il est passé à 800 millions d'euros.
— Ah mais c'était 800 millions au début. Hein, —
Non, au début 600.
— On 800. Avait dit 800. Bon, 800. Bon, enfin, c'est à géométrie
800. Donc ils ont augmenté de alors, j'avais dit à l'époque, souviens-toi, que c'était une présentation en fait politique qui n'avait strictement aucun sens. Parce qu'effectivement, on y agrégeait à la fois des crédits de paiement et des autorisations de programme qui, elles, sont établies sur plusieurs années. Et on laissait croire en fait aux entreprises du BTP, notamment aux petites entreprises de la CAPEB et d'ailleurs, qu'elles allaient recevoir dans l'année 2016, tout de suite, dans leur caisse et grâce au chantier, 800 millions d'euros, ce qui est archi fou. Alors quand je vois dans la presse du Midi Libre, par exemple, du vendredi qui suit le lendemain, ce budget affiché, en gros 800 millions d'euros pour les entreprises du BTP, alors non seulement je trouve cela, encore une fois, scandaleusement faux, même si c'est pas tout à fait faux.
Quand même c'est du maquillage, grand maquillage.
Voilà. Mais en plus, ça démontre que nos journalistes ne regardent même pas en fait les documents qu'on leur propose, parce que s'ils avaient eu la curiosité de lire simplement le budget primitif, ils auraient constaté que le budget d'investissement de cette grande région est de 960 millions d'euros. Alors ça voudrait dire que sur 960 millions d'euros d'investissement, il y aurait 800 millions d'euros en fait, qui iraient directement ou indirectement dans les caisses d'entreprise du BTP. C'est ridicule. Et donc, encore une fois, la presse régionale, plutôt que de faire l'effort d'informer sérieusement en fait, leurs lecteurs, ferait bien quand même de s'informer un peu mieux des chiffres qu'elle donne et d'être un peu plus dans la vérité des faits et des choses.
Voilà. Et nous ne faisons hélas que le répéter et le déplorer. Et nous marquons une première pause.